Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie.
Bonjour.
Aujourd'hui, on plonge vraiment la tête la première dans un document brut.
Ouais, très brut.
C'est un texte qui sort complètement des sentiers battus de l'analyse politique, disons, traditionnelle. Et ça va nous demander une attention toute particulière.
Tout à fait.
Notre exploration du jour, elle repose sur un entretien écrit. C'est un échange qui s'intitule « Dans les coulisses de Serviam » avec Wilhelm, et c'est mené par un certain Augustin.
C'est ça.
Pour donner un peu de contexte à l'auditoire, c'est un document qui a pour but affiché de présenter de l'intérieur les membres d'une équipe, donc l'équipe Serviam.
Mmh.
Et le texte définit cette équipe très clairement, vraiment dès les premières lignes, comme étant composée de messieurs, et là je cite les termes exacts, gaulois et catholiques.
Ce qui pose déjà le ton.
Voilà. Le protagoniste de cette interview, donc Guilherme, c'est un époux et père de famille qui approche doucement de la quarantaine. Et en fait, l'intérêt de ce décryptage aujourd'hui, c'est vraiment de regarder le code source d'un logiciel idéologique très spécifique.
Ouais.
On va lire les propres mots de la personne pour comprendre comment elle s'est forgée.
Alors, avant d'aller plus loin, il est vraiment impératif de poser un cadre très strict pour notre décryptage d'aujourd'hui.
Ah oui, le fameux avertissement.
Oui, avant même de rentrer dans le vif du sujet, le matériel qu'on va examiner aborde des thématiques politiques extrêmement clivantes.
Absolument.
Des thématiques radicales. Et ça mobilise des concepts identitaires très lourds. Au fil de cette lecture, on va croiser des références explicites au national-socialisme.
Carrément.
Hautement polarisante.
C'est du lourd.
Donc la règle d'or de notre émission, pour ceux qui nous écoutent, elle reste inchangée. Notre objectif ici n'est ni de valider, ni de condamner. Et bien sûr, on ne cautionne absolument rien de ce qui est dit dans ce manifeste.
Rien du tout.
La mission, c'est d'observer avec une loupe analytique. Avec un détachement clinique total, la manière dont un individu construit, articule et justifie sa vision du monde.
Voilà.
C'est un pur exercice de dissection intellectuelle. Je suis prête quand on veut commencer.
Le décor est planté. Bon, décortiquons tout ça. Reprenons depuis le début, là où l'interview commence. Les racines de Guilherme.
D'accord.
Il explique que son ascendance vient du nord-ouest de la France et qu'il a pu retracer son arbre généalogique jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Parce qu'il n'a pas du tout grandi dans ce village ancestral idyllique. Il a grandi dans des cités ouvrières.
C'est là que ça devient sociologiquement intéressant.
Exactement. Il raconte avoir évolué au beau milieu du clivage classique de la lutte des classes, donc gauche contre droite. Et surtout, il décrit un environnement scolaire qui ressemble à un grand carrefour social.
Oui, il utilise des mots très spécifiques pour ça.
Il parle de, je cite, « fils de bourgeois libertariens », de résidus skinheads et de descendants de l'immigration maghrébine.
Ouais.
En lisant ça, je me suis dit, mais c'est le terreau parfait pour une crise identitaire, ça.
Ce qui est fascinant ici, c'est comment ce mélange social crée effectivement une dynamique dans la construction identitaire que Guilherme décrit lui-même.
C'est-à-dire ?
Bah, il ne s'est pas construit en trouvant immédiatement un modèle positif auquel s'identifier. Une sorte de phare dans la nuit, si on veut.
Pas de modèle à suivre ?
Non, il s'est construit par soustraction. Il le formule d'ailleurs de manière très lucide dans le texte. Il dit « Avant de savoir qui j'étais, j'ai pu voir qui je n'étais pas ».
Ah oui, la définition en creux.
Exactement. Psychologiquement et sociologiquement, c'est vraiment le point de départ le plus classique des identités radicales. Quand on grandit dans un environnement hétérogène, fracturé, au milieu de groupes très marqués socialement ou ethniquement, la quête de repères se fait en creux.
On regarde les autres, en fait.
C'est ça. On définit sa propre tribu en regardant les autres tribus dans la cour de récréation et en se disant « je ne suis ni eux, ni eux ».
Et cette quête de repères, on sent qu'elle a été profondément marquée par une sensation de manque.
Un vide à combler.
Il y a une anecdote dans l'interview qui m'a vraiment marqué par sa spécificité. Quand l'intervieweur lui demande ce qui lui a manqué dans sa jeunesse, on pourrait s'attendre à ce qu'il parle d'argent.
Ou de confort matériel.
Vu son milieu ouvrier des cités, c'est vrai?
Pas du tout. Il pointe du doigt un manque intellectuel et spirituel.
C'est très révélateur.
Il raconte qu'à la campagne, ses seules fenêtres sur le reste de l'univers, c'était les petites bibliothèques municipales de province et l'encyclopédie sur CD-ROM Encarta.
Ah oui, Encarta.
C'est un détail qui parlera à une certaine génération, bien sûr.
C'est sûr. Mais il décrit cela comme un horizon mental terriblement restreint. On sent une vraie frustration de ne pas avoir eu accès à des grilles de lecture plus vastes, quoi.
Mais l'anecdote d'Encarta, elle est cruciale. Parce qu'elle introduit le point de bascule de son évolution.
L'arrivée d'Internet.
Exactement. Guilherme m'explique que l'arrivée d'Internet à la maison a agi comme un véritable catalyseur explosif.
Une révélation.
Selon ses mots, c'est ce qui lui a permis de s'extraire d'un récit qu'il jugeait simpliste et étouffant.
Le fameux récit dominant.
Oui, ce qu'il appelle le récit du camp du bien contre le camp du mal. Et ça, c'est une clé de voûte pour comprendre la polarisation contemporaine.
Ah oui, comment ça ?
Eh bien, pendant des décennies, l'accès à l'information était filtré. Il était modéré par des institutions. L'école républicaine, la presse classique, les comités de sélection des bibliothèques municipales.
Donc des garde-fous, en quelque sorte.
Voilà. Et Internet a fait sauter ses digues. Pour un jeune homme frustré par cet horizon limité, le web n'était pas juste une grande bibliothèque.
Non, c'était beaucoup plus.
C'était la découverte vertigineuse de récits alternatifs, de communautés souterraines. Et de visions de l'histoire qui n'auraient jamais passé la porte de sa bibliothèque de quartier.
Ce qui amène directement à la question de ce qu'il a trouvé sur Internet pour remplir ce vide. Est-ce qui constitue aujourd'hui son panthéon personnel, en fait ?
Un panthéon très particulier.
Le texte liste ses figures tutélaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est martial.
Très martial, oui.
Sur le plan historique, il vénère la figure du chevalier, en citant nommément Pierre du Terrail, donc le fameux chevalier Bayard.
Le chevalier sans peur et sans le proche.
C'est ça. En ce qui que sans Jeanne d'Arc. Sur le plan intime, il a une révérence absolue pour la figure paternelle. Il explique que c'est en devenant père lui-même qu'il a mesuré le poids écrasant de cette responsabilité.
La transmission.
Ouais. Mais le détail qui m'a fait bondir, c'est son rapport à la culture. Il affirme ne lire absolument aucune fiction. Zéro roman.
Rien du tout.
Ses lectures sont exclusivement des essais historiques, de la religion et de la géopolitique. Et il mentionne suivre des vulgarisateurs sur YouTube, notamment Antoine Dresse et sa chaîne Egonon, pour, je cite, « appréhender les concepts de droite actuellement ».
D'accord.
Je me demande pourquoi rejeter la fiction de manière aussi dogmatique. J'ai l'impression que c'est une manière de fermer la porte à l'empathie envers des expériences de vie qui ne sont pas les siennes.
C'est une excellente observation. Le rejet de la fiction est loin d'être un détail esthétique. En fait, c'est un mécanisme de défense idéologique.
Un mécanisme de défense ?
Oui. La littérature, le roman, ça sert précisément à brouiller les frontières morales, à se mettre dans la peau de profils très divers.
À cultiver le doute.
Exactement. Or, en se concentrant uniquement sur l'histoire ou la géopolitique, surtout lorsqu'elles sont filtrées par des vulgarisateurs très spécifiques à sa mouvance politique, Guilherme ne cherche pas de l'évasion.
Il cherche quoi alors ?
Il cherche des manuels d'instruction pour la réalité. Il veut des modèles de rectitude, d'ordre et de sacrifice.
Ce qu'incarne Bayard ou Jeanne d'Arc ?
Parfaitement. Des figures mythifiées et militarisées. La fiction introduit de la nuance et de la faiblesse humaine. Et lui, il recherche une architecture mentale blindée.
C'est d'autant plus ironique qu'il cherche cette architecture rigide. Parce que quand on regarde sa propre définition politique un peu plus loin dans le texte, c'est un grand écart idéologique total.
Oh oui, une vraie gymnastique.
C'est là que le cocktail devient presque indigeste. Il s'identifie comme un homme blanc, catholique, et il déclare puiser son inspiration à la fois dans le national-socialisme et dans le distributivisme.
C'est très contradictoire.
Oui, pour ceux qui l'ignorent, il cite les auteurs britanniques Hilaire Belloc et G.K. Chesterton, les pères du distributivisme.
Ouais.
En gros, c'est une doctrine sociale catholique qui prône la petite propriété locale, la vie agraire, et qui se méfie terriblement de l'État central.
Et à côté de ça...
Et dans la même respiration, il cite le national-socialiste allemand. Mais comment on peut concilier l'amour du petit village décentralisé avec l'archétype même de l'État totalitaire industriel ?
C'est impossible, en théorie. C'est le point de dissonance cognitive le plus spectaculaire de tout le document. Historiquement et philosophiquement, ces deux courants s'excluent mutuellement de manière absolue.
Totalement.
Mais c'est symptomatique de la façon dont les doctrines se forment aujourd'hui dans les marges d'Internet. C'est un peu l'idéologie du buffet à volonté.
L'idéologie du buffet à volonté, j'aime bien l'image.
C'est exactement ça. On navigue sur des forums ou des chaînes vidéo, on prend une tranche d'esthétique de l'ordre martial d'un côté, on ajoute une pincée de morale économique agraire de l'autre, on saupoudre de catholicisme traditionnel et on mixe le tout pour se créer une armure sur mesure.
Donc la cohérence n'a plus d'importance.
La cohérence historique n'a plus aucune importance. Ce qui compte, c'est la fonction de ces idées. Elles servent toutes, séparément, à rejeter le monde moderne tel qu'il est.
Cette approche buffet à volonté, on la retrouve de manière encore plus flagrante quand l'intervieweur aborde la notion de nation.
Ah, la fameuse question sur la France.
Augustin lui demande à quoi ressemblerait la France idéale et le français idéal.
Et la réponse est surprenante. Hein.
La réponse de Guilherme m'a laissé sans voix. Ce militant d'extrême droite avoue très sereinement qu'il ne sait pas vraiment ce qu'est un français.
Paradoxal, non ?
Très. Il dit qu'il sait ce qu'est un breton, un savoyard, un corse, un alsacien ou un basque. Grâce à leur spécificité régionale.
Oui.
Mais le concept de français global lui échappe. Et pourtant, la phrase d'après, il décrit sa France idéale comme une France blanche, enracinée et ordonnée. dirigé selon un système féodal.
La féodalité, rien que ça.
Il concède quand même avec un pragmatisme soudain que, vu la gueule de la haute finance mondialisée actuelle, la féodalité, ça va être un peu compliqué à mettre en place.
C'est un glissement conceptuel massif qu'il opère là. Il abandonne complètement l'idée de l'État-nation telle qu'on la conçoit depuis la Révolution française.
Fini le jacobinisme ?
Voilà, le jacobinisme, la centralisation parisienne, ce n'est pas son truc, d'où sa nostalgie pour les identités régionales et la féodalité. Mais face à l'impossibilité matérielle de recréer le Moyen-Âge...
Ce qui est une réalité indéniable.
Exactement. Eh bien, puisque la nation est morte à ses yeux, diluée par le XXe siècle, le texte nous montre qu'il la remplace par le concept de bloc civilisationnel.
Le bloc civilisationnel ?
Oui, il ne raisonne plus en termes de frontières politiques, il raisonne en termes de continents et de génétique.
Oui, il développe cette idée de bloc en traçant une ligne historique que j'ai trouvée hallucinante.
La généalogie continentale.
Voilà. Il propose de penser l'Europe de l'Ouest comme un continuum qui part d'un mélange préhistorique qu'il appelle Mésolithique, Néolithique, Yamnaya.
Yamnaya, oui.
Qui traverse ensuite l'Empire romain, le christianisme, la Renaissance, pour finir dans les tranchées des guerres mondiales.
Un raccourci historique saisissant.
Pour s'ancrer dans le présent, il ressent le besoin de remonter à l'âge du bronze. Les Yamnaya, pour remettre un peu de contexte pour l'auditoire.
Oui, c'est important.
C'est un peuple de pasteurs nomades, des steppes eurasiennes. Il y a quand même une ironie mordante à fonder une idéologie de l'enracinement total sur une tribu de cavaliers nomades préhistoriques.
C'est très ironique, en effet.
Et ça, simplement parce que la génétique des populations les place à la racine des langues indo-européennes.
Ce que vous décrivez là, c'est l'illustration parfaite de la biologisation de l'histoire.
La biologisation, oui.
L'appartenance ne se définit plus par un passeport, par l'adhésion à une constitution ou par une culture partagée au sens civique du terme.
Non, c'est le sang.
Elle se définit par une lignée sanguine, une génétique ininterrompue depuis la préhistoire, sanctifiée ensuite par la tradition religieuse.
C'est un changement de paradigme complet.
On passe d'un nationalisme classique à un ethno-nationalisme pensé à l'échelle d'un continent entier. Dans son esprit, l'ennemi n'est plus une autre nation, c'est la dilution de ce bloc sanguin.
Ce qui nous pousse à nous demander comment tout cela se traduit concrètement, comment Gwailrem envisage que cette vision radicale prenne forme dans le monde réel.
La mise en pratique.
L'intervieweur le lance sur l'avenir et Gwailrem identifie deux menaces existentielles selon lui. La submersion migratoire et la dictature culturelle woke.
Les classiques de ce discours.
Il affirme que si sa mouvance parvient à inverser ces deux tendances d'ici la fin du siècle, ce sera une victoire historique. Mais ce qui m'a vraiment frappé ici, c'est son rejet total de la stratégie du bunker.
Ah oui, pas de repli sur soi.
Dans ces milieux radicaux, on entend souvent parler de survivalisme, d'attendre l'effondrement dans une cabane isolée au fond des bois.
Avec des conserves.
Lui, pas du tout. Il regarde ce que fait la gauche radicale, spécifiquement Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise. Et il se dit, on va faire exactement la même chose. C'est du cynisme politique à l'état pur, non ?
L'ironie de cette comparaison est redoutable. Le texte montre que Guilherme observe la stratégie de son adversaire idéologique, perçu comme le plus dangereux, donc LFI.
Oui.
Et il en fait un manuel opératoire. Il part du postulat que la France insoumise capitalise sur la force démographique des descendants d'immigrés en s'emparant de leurs revendications.
C'est sa grille de lecture.
C'est sa grille de lecture, oui. Et son idée est d'inverser le miroir. Il part du principe désabusé que les politiciens, je le cite, « vivent du clientélisme ».
Donc c'est très pragmatique.
C'est purement mathématique. Si les familles traditionnelles catholiques, comme la sienne, font énormément d'enfants et que ces enfants sont éduqués pour porter ces idées radicaux...
La démographie.
Alors, par la simple force du nombre, la classe politique sera obligée de se plier à leurs exigences pour obtenir leur vote.
On ne fait plus des enfants pour la beauté de fonder un foyer. On fabrique des bataillons d'électeurs.
C'est exactement l'idée.
C'est voir la démocratie non pas comme un espace de débat d'idées, mais comme une brute équation démographique. D'ailleurs, cela fait un pont direct avec la section où Augustin lui demande quels conseils il donnerait à la jeunesse.
Une section très révélatrice.
Au début, on lit ça, on a l'impression d'entendre des conseils de bon sens paysans.
Oui, ça a l'air inoffensif.
Ne jamais perdre espoir, accepter l'échec pour rebondir, apprendre un métier manuel, acquérir un savoir-faire tangible, régler ce qui est à notre portée avant de vouloir changer le monde et se tourner vers Dieu.
C'est presque paternaliste et bienveillant.
C'est ça. Mais très vite, le piège se referme. Ils mettent en garde contre le fléau moderne, le nihilisme, le consumérisme, l'individualisme. Et au milieu de tout ça, ils glissent l'antiracisme.
Voilà.
Ils placent l'antiracisme au même niveau que le consumérisme destructeur. Et ils concluent sur le but de l'équipe Servium. en espérant que ce soit un point d'ancrage pour montrer qu'il existe une droite, et je cite à nouveau précisément ces mots, anti-immigrationniste et non judéo-servile.
Il faut vraiment s'arrêter longuement sur ce vocabulaire.
Oui, c'est choquant.
Car c'est la mécanique même de la radicalisation qui s'expose ici. Le terme « non-judéo-servile » n'est pas lâché au hasard.
Non, c'est calculé.
C'est un marqueur linguistique fondamental, un signal de ralliement de l'antisémitisme le plus dur. Et observez comment c'est amené dans le texte est glaçant.
Ça passe presque comme une lettre à la poste.
C'est inséré au beau milieu de conseils valorisant le travail manuel et la fondation d'une famille aimante. C'est une technique rhétorique d'enrobage.
D'enrobage, oui.
On normalise un extrémisme violent en l'empaquetant dans un discours de vertu morale et de retour à la terre. Le message sous-jacent à un jeune lecteur perdu, c'est « Tu veux échapper à la vacuité de la société de consommation ?»«
Tu veux du sens ?»«
Tu veux une belle famille et un métier qui a du sens ?» Alors tu dois aussi adopter notre haine raciale et notre antisémitisme. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le pack complet identitaire.
C'est le grand écart entre ces concepts abyssaux et la réalité bassement matérielle de Guilherme, qui est d'ailleurs le fil rouge de la fin de l'interview.
Le retour au quotidien.
Parce que derrière le stratège qui théorise le sauvetage génétique de la civilisation européenne, il y a un père de famille qui court après la montre.
Comme tout le monde.
Quand on lui demande ce qu'il aimerait améliorer dans sa vie personnelle, il parle de trouver le temps. Il veut du temps pour transmettre ses idées à ses enfants sans les braquer. En cherchant à comprendre ce qui les intéresse, pour les ramener subtilement vers sa propre ligne de pensée. Il lâche même une blague de daron, rappelant qu'une journée ne fait que 24 heures. Sauf si Jean-Claude Van Damme me prouve le contraire.
La fameuse blague.
Il raconte ses journées blindées entre le boulot, les gosses, ses lectures géopolitiques et la salle de sport. Il a même cette phrase étonnante. Avec l'âge, j'ai appris la nuance et à faire preuve d'indulgence.
Ah oui, l'indulgence.
L'indulgence pour l'Europe woke. Vraiment, hein, j'en doute.
Certainement pas pour l'Europe woke, non. Cette banalité du quotidien contraste violemment avec la radicalité de ses manifestes.
C'est vertigineux.
On a d'un côté un militant intransigeant qui veut imposer un système de type féodal et ethnocentré, et de l'autre, un père fatigué qui essaye de caler sa séance de musculation entre une réunion de travail et les devoirs du petit dernier.
En citant des blagues des années 90.
En citant Jean-Claude Van Damme, oui. Mais ce paradoxe, il est vital pour comprendre la sociologie de ces mouvements en ligne.
C'est-à-dire ?
Ce ne sont pas des entités abstraites vivant en Hernique, dans des châteaux forts en ruine. Ce sont des acteurs hyper intégrés dans la modernité qu'ils exècrent. La nuance et l'indulgence dont ils parlent sont strictement compartimentées.
Seulement pour les siens.
Elles sont réservées à sa sphère privée, à la patience qu'il doit avoir avec ses enfants. Sa vision macropolitique, elle, demeure un monolithe de certitude.
Et alors, s'il y a bien un moment où on touche le fond de ce décalage entre le banal et le politique, c'est la toute dernière question de l'interview, la fameuse question bonus.
Ah, la question inattendue.
Augustin, l'intervieweur, prévient carrément qu'il faut éloigner les enfants de l'écran. Après un tel étalage de concepts historiques, on s'attend à une réflexion philosophique finale.
Pas du tout.
Bien non. Augustin lui demande avec une crudité qui m'a fait relire la phrase trois fois. Quelle place tient son service trois pièces, le poids de ses joyeuses, dans son courage quotidien?
Oui, le vocabulaire est très cru.
C'est de l'humour de vestiaire, gras, lourd, balancé au milieu d'un manifeste civilisationnel. Sur le coup, je me suis dit que l'interview déraillait complètement.
C'est vrai que la rupture de ton est brutale, mais elle est en réalité extrêmement cohérente avec la culture d'Internet dont ce mouvement s'abreuve.
L'humour potache.
Guilherme commence par esquiver avec une pirouette bon enfant sur sa prise de poids et la difficulté d'éliminer la bière à l'approche de la quarantaine.
Oui, la bière et la bedaine.
Mais analysez la manière dont il retombe sur ses pattes, quelques mots plus loin. Il prend cette question triviale sur son anatomie masculine et il la transmute en un symbole politique absolu.
C'est fascinant cette transition.
Il explique très sérieusement que cet attribut biologique est un rappel constant que les temps nous sont plus hostiles et que par conséquent, les hommes ont des responsabilités et des devoirs pour changer nos sociétés.
Attends, il passe vraiment d'une blague sur la bière et le fait de grossir à un devoir messianique de sauver la civilisation par la force de ses attributs masculins, dans le même souffle.
Oui.
C'est complètement fou.
Vertigineux, mais très calculé. L'humour potache, le registre viriliste des forums en ligne, sert de cheval de Troie à l'essentialisme biologique.
Un cheval de Troie, oui.
Dans son logiciel idéologique, la biologie commande le destin politique. Être né homme n'est pas une simple caractéristique physique, c'est perçu comme une injonction naturelle à l'action martiale.
Protectrice.
Protectrice et agressive face à un monde extérieur vu comme fondamentalement dégénéré. C'est la boucle parfaite qui boucle l'ensemble de son discours.
Tout se tient dans sa logique.
de la génétique fantasmée des tribus Yamnaya jusqu'aux blagues graveleuses de vestiaire. Tout ramène obstinément à cette même obsession d'une identité assiégée qui doit se reproduire et se défendre par la force.
Impressionnant. Si on prend un peu de recul pour faire la synthèse de cette plongée.
Oui, c'est nécessaire.
Ce qu'on a sous les yeux, c'est le parcours d'un individu qui, poussé par la frustration d'une offre intellectuelle trop limitée dans les cités ouvrières de sa jeunesse, a utilisé l'explosion d'Internet pour s'assembler une identité sur mesure.
Un puzzle identitaire.
Une identité tissée de paradoxes majeurs. Un amour de l'ordre féodal marié à une stratégie de parasitage démocratique calquée sur la France insoumise.
Tout à fait.
Un catholicisme social mélangé à des références toxiques au national-socialisme, et un ton qui navigue sans cesse entre la bienveillance d'un père de famille fatigué et la froideur d'un idéologue préparant une guerre démographique.
C'est le résumé parfait de la mécanique de radicalisation à l'ère numérique. Ce document est la preuve tangible que les doctrines extrêmes ne circulent plus sous la forme de longs traités théoriques distribués par des partis politiques à l'ancienne.
Non, ça a changé.
Elles mutent en permanence. L'approche de Guilherme, avec le buffet à volonté, c'est prendre un morceau d'histoire ancienne ici. Une théorie génétique là, une esthétique religieuse ailleurs, pour forger un rempart psychologique individuel.
Une armure ?
C'est une armure, conçue sur mesure pour apaiser des angoisses très contemporaines face à la complexité et à la fluidité du monde moderne.
Et pour l'auditoire qui nous écoute jusqu'au bout, la question légitime c'est pourquoi s'infliger la lecture et l'analyse de ce genre de document brut ?
C'est la question essentielle.
La réponse est simple. Parce que pour comprendre les dynamiques de polarisation qui fracturent nos sociétés, il ne faut pas se contenter des résumés aseptisés ou des débats de plateaux télévisés.
Il faut lire les sources.
Il faut regarder sous le capot, observer comment des mots nobles comme enracinement, transmission ou famille sont utilisés pour encapsuler et banaliser des concepts profondément excluants et haineux.
Exactement.
Comprendre cette mécanique interne, l'observer avec lucidité, c'est la première étape indispensable pour ne pas en être dupe.
Une lucidité qui nous amène à une ultime réflexion que je voudrais soumettre à ceux qui nous écoutent pour clore cette analyse.
Je vous écoute.
Hier m'affirme avec une conviction inébranlable qu'Internet a été sa porte de salut. L'outil technologique qui l'a libéré du récit simpliste et binaire de son enfance. Ce fameux récit du camp du bien contre le camp du mal.
C'est ce qu'il dit, oui.
Mais au vu de la rigidité des concepts qu'il déploie aujourd'hui, on est en droit de retourner l'équation. Internet ne lui a-t-il pas simplement fourni les briques parfaites pour bâtir un tout nouveau récit, tout aussi implacablement binaire, mais dont les polarités sont juste inversées ?
C'est très juste.
Un monde où l'Europe des steppes s'oppose à la dictature woke. Jusqu'à quel point nos formidables outils technologiques d'émancipation intellectuelle se transforment-ils, insidieusement, en prison idéologique ? Dont nous construisons nous-mêmes les murs à grand renfort de biais de confirmation.
Voilà une question vertigineuse qui donne matière à réfléchir bien au-delà de notre sujet du jour. Prendre conscience des murs invisibles de nos propres bulles cognitives, c'est sûrement le meilleur exercice mental à tirer de ce décryptage.
Je suis bien d'accord.
Un immense merci à l'auditoire de nous avoir suivis dans cette exploration exigeante des tréfonds d'Internet. Gardez toujours l'esprit grand ouvert, continuez à questionner les récits tout faits. Et on se retrouve très vite pour poursuivre notre analyse de la complexité du monde. À très bientôt.